9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Eddy Mitchell.
Bonjour, bonjour.
Vous avez l'air de péter la forme, comme on dit.
Ah bon? Ça va, je vous remercie.
Vous publiez Delila à Belleville, aux éditions d'Argo, avec des illustrations, fort jolies d'ailleurs, de Ralph Meyer.
Ah oui.
Alors c'est, ça se passe en 1956, vous avez 14 ans, on vous appelle Petit Claude à l'époque, puisque Claude c'est votre prénom, et ça se passe entre la place des Fêtes, les buts de Chaumont, le but du Château Rouge, la rue Axo, le Pré Saint-Gervais. Mmh. Vous nous racontez votre enfance. On ne disait pas encore la préadolescence à l'époque. Hein.
Non.
Était soit un enfant, soit un adulte.
Oui. Non, ça n'existait pas, effectivement.
Qu'est-ce qui vous a donné envie tout à coup de vous replonger très loin en arrière quand même, hein?
C'est-à-dire que j'ai toujours une vénération pour mon éducation par mon père, qui était un type formidable et qui était un grand rêveur, qui adorait le cinéma et la littérature. Donc, à part ça, peu de choses l'intéressaient. La musique, c'était pas son truc. Et donc, il m'emmenait tous les jours. Comme il travaillait de nuit, il allait me chercher à l'école, puisqu'il rentrait manger un petit bout chez lui vers 1h30, 2h.
Il travaillait à la RATP.
À la RATP, oui. Il travaillait à l'atelier des réparations. Et il venait me chercher à l'école et on allait direct au cinéma. Et donc c'était formidable.
Mais votre père détestait le Coca-Cola, il trouvait que c'était
oui.
un médicament américain.
Un goût de punaise.
Mais surtout un médicament américain, il détestait aussi le hamburger. Vous parlez de barbarie.
Oui.
Il a dû véritablement souffrir quand vous êtes devenu vous-même une espèce de petit colonisé.
Oui,
en
vrai.
Vous appelant Eddy Mitchell et en chantant du rock'n'roll.
Oui, mais ça ne l'a pas intéressé du tout.
Ah, oui. Vraiment, il a fait... Je ne sais pas attention.
Non. Il a dit, tant pis, c'est comme ça, puis voilà.
Alors... Ça, vous n'en parlez pas dans ce livre-là, c'est ça se passe avant, vous avez 14 ans, et ça se passe, alors je citais les buts de Chaumont, mais il y a un endroit dont vous parlez sans arrêt, et Dieu sait si j'en ai entendu parler dans les films de cette époque, ce sont les fortifs. Les Parisiens ont entendu parler des fortifs, mais ne savent pas ce que ça représente. Les fortifs, pour nous, c'est les fortifications, c'est-à-dire les forts qu'on avait mis autour de Paris.
Non, mais
on voit bien que c'est plus compliqué que
Non, les fortifs, on appelait ça les fortifs parce que c'était vallonné, parce que il y avait plein d'herbes, il y avait plein de sable. Et d'ailleurs, le week-end, très souvent, il y avait des concours de motocross. Vous voyez ? Pour vous dire que l'endroit était abîmé, quand même. Bon. Et donc, ça commençait du boulevard d'Algérie, où j'habitais, pour se terminer au Pré Saint-Gervais, où vous habitez.
Exactement.
Juste à face.
Là où il y a
face...
le périphérique, en
oui,
fait.
Oui, juste en face de l'école Saint-Joseph.
Donc, quand on dit les fortifs, et qu'on dit que c'était fascinant, que c'était. Toute votre génération a baigné dans les fortifs, hein, pour ceux qui habitaient à Paris, en fait, on ne parle pas des fortifications, des batteries du Mont Valérien ou du fort d'Aubervilliers. On parle de la zone qu'il y avait à la
zone,
place.
Parce qu'il y avait même un boulevard d'Algérie, donc. Il y avait même un grand parc qui s'appelait la Butte Rouge et qui n'était pas terminé et donc était d'un seul coup laissé à l'abandon. Donc j'ai presque parti des fortifs.
Et vous avez passé votre enfance là-bas, vous ?
Oui, j'ai appris à fumer, à boire des coups.
Ah oui, ça avait l'air d'être un quartier assez fabuleux. Les héros de ces quartiers, à l'époque, vous dites que c'était les matelassiers. C'était un peu les sex-symboles des ménagères.
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'ils passaient une fois par an, c'était en septembre d'ailleurs, avec des grands camions, et ils sortaient leur... Genre, j'ai jamais très bien compris comment ça fonctionnait, mais ils sortaient des tas d'instruments, etc. Ils gueulaient, matelassier, et les femmes aux fenêtres faisaient, oui, je descends. Et elles avaient un édredon à retaper, un oreiller, je sais pas, ou un matelas, voilà, donc les matelassiers.
Et ils étaient particulièrement bien gaulés ou...
C'est-à-dire qu'il y avait souvent des aventures.
Vous étiez, Eddy Mitchell, un garçon des classes populaires, hein, et vous racontez que le repas de fin du mois, comme vous l'appelez à l'époque, c'était un bol de vin à l'eau sucrée avec de la mie de pain.
Oui,
vos parents, les enfants, mangeaient ça et vous dites que c'était consistant et rafraîchissant. On a fait des progrès quand même.
Ah oui, bien sûr. Non, mais c'était surtout en été, voyez-vous, parce que la fin du mois arrivait le 15, oui, du mois, donc il fallait bien se débrouiller.
Ouais, et avec à l'époque, un bol de vin, c'était bien vu. Hein,
un bol de vin avec de l'eau, du sucre, de la mie de pain, et hop.
C'est fou, cette époque, à quel point les Français buvaient. Hein, les enfants buvaient, adultes, tous ceux qui effectuaient un travail nécessitant de la force physique, comme les matelassiers d'ailleurs, étaient encouragés à boire. Hein.
Oui, c'était le pinard, hein, c'était pas autre chose. Et on mangeait aussi de la tétine, ce que je n'ai pas précisé.
C'était quoi la tétine ?
La tétine, c'est la tétine de vache, c'est les mamelons de la vache, découpés en fines tranches. Vous mettez de l'ail, du persil, etc., un peu d'huile d'olive, et vous faites sauter ça à la poêle, et c'est bon.
Est-ce que
et ça coûtait que dalle.
Est-ce que vous faites partie de tous ces gens qui se souviennent, au fond, beaucoup mieux de leur enfance que de ce qu'ils ont fait l'année dernière ?
Ah oui.
Parce que vous avez passé plus de temps à vous la rappeler ?
C'est pas que j'ai passé plus de temps, c'est que c'est des années marquantes pour tout le monde, je crois, pour toutes les gens qui ont eu une jeunesse normale, ça les a tous marqués, je crois. Et c'est l'époque où on découvre aussi bien le cinéma que le sexe, que la télévision, vous vous rendez compte, la télévision. Moi, je me souviens de la télévision, mon père l'avait acheté d'occasion, c'était bien sûr une télévision... noir et blanc, bombé, etc. Et fallait pas la laisser allumer plus de 15 minutes, parce que sinon, ça risquait d'exploser.
On fait une pause, Eddie Mitchell, et puis vous allez nous raconter, est-ce que c'est vrai, comme vous le racontez là, dans ce livre, vous avez failli devenir un délinquant à cette époque-là, mais d'abord, pause.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Eddie Mitchell qui publie Delilah à Belleville chez Dargaud. Ça n'est pas une bande dessinée, c'est le récit de sa préadolescence illustré par Ralph Meyer. On y voit donc un petit Claude qui va au cinéma avec son père ou sans son père aussi et qui va dans des cinémas alors totalement improbables. Hein. Je ne savais pas qu'il en existait de tel à Paris. On est en 1956. Vous parlez d'un cinéma, le Florida, place des Pyrénées, avec un arbre au milieu de la salle, un arbre avec sa grille.
Oui. Oui, oui, ce qui permettait bien sûr aux vieilles dames d'amener leurs chiens qui passaient pisser pendant le western, c'était marrant.
C'est incroyable. Déjà, on est tout étonné quand on voit des vieux films, on voit les gens qui fument dans la salle. Mais, mais l'idée qu'il y avait un arbre au milieu, ça n'empêchait pas de voir.
Non, bah, les fauteuils étaient quand même assez de façon...
Disposés
de façon quand même honorable pour la vision.
Vous faites déjà partie de ces enfants qui vont revoir plusieurs fois le même film. C'est devenu commun après avec l'invention du magnétoscope et puis aujourd'hui avec les films à disposition sur les plateformes. Mais à l'époque, vous alliez voir déjà le même western 3-4 fois.
Hein. Oui, mais ce n'était pas de ma faute. Hein. C'est-à-dire que moi, je séchais l'école et je courais comme un fou pour un ticket de métro. J'arrivais sur les grands boulevards où les cinémas ouvraient à 10h du matin. Quand même, il ne faut pas oublier. Et c'était en VO à 10h du matin. Et en relief souvent. Formidable. Et donc, j'allais là, et je reprenais mon métro, et à midi, j'étais de retour à l'école, à midi et demi. Et à une heure et demie, mon père venait me chercher, et m'emmenait revoir le même film, très souvent. Et le soir, quand mon frère rentrait, on allait voir encore le même film.
Il y avait à l'époque un milieu bellevillois, vous racontez un certain nombre d'anecdotes qui se sont déroulées à cette époque. Est-ce qu'il vous fascinait ce milieu ?
Non, il me faisait peur. Il faisait peur surtout. Il faisait peur parce qu'il y avait des garçons qui étaient, disons, légèrement plus âgés que moi, qui avaient 2 ans de plus, 3 ans, et qui étaient des véritables bandits, quoi, des véritables gangsters.
Oui, il y en a un qui meurt dans votre livre, abattu par la police.
Oui.
Et alors qu'il venait de défourailler sur tout le monde depuis un toit quand même. Hein. C'était très, très, beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Hein,
pas plus violent, c'est-à-dire que heureusement il n'y avait pas la cam, parce que là, ça aurait encore dégénéré un peu plus.
Alors on va vous proposer à vous, petit Claude, qui avait 14 ans, de voler à coups de matraque la paye des forains qui se sont installés dans le quartier. S'ils sont adressés à vous, c'est que vous aviez quand même un genre un peu particulier à l'époque, non ?
Ben, je faisais plus âgé que mon âge, disons. Je faisais 17-18 ans. Et donc, ils se sont dit, ben, lui, il doit être bon, quoi.
Mais vous deviez avoir l'air d'un petit caïd, quand même.
Bon, pas franchement caïd, non, justement, c'est qu'eux n'avaient pas envie de se mouiller et préféraient passer la main, oui.
Si vous avez eu envie de raconter cette histoire aujourd'hui, on peut dire que vous avez 80 ans, Eddie Mitchell.
81
même, pardonnez-moi de vous avoir traité en prépubère. Mais si vous avez eu envie de raconter cette histoire, c'est que j'imagine qu'elle vous trotte dans la tête depuis longtemps et qu'au fond, vous auriez pu basculer à l'époque.
J'aurais peut-être pu basculer, mais pas... Non, franchement, non, je crois pas. Parce que...
Mais vous êtes à deux doigts quand même.
Non, mais le fait de taper sur quelqu'un, le fait de... Non, ça, je peux pas.
Oui, c'est ce qui se passe, effectivement. Oui. Mais si vous étiez laissé aller, sans doute, laissé aller, tout aurait été différent.
Non, peut-être, mais c'est que des peut-être.
Évidemment. Vous avez vraiment entendu pour la première fois Rock Around the Clock dans un jukebox, à une époque où à la radio ne passait qu'André Claveau et Tino Rossi.
Oui, bien sûr.
Ça a dû vous faire drôle quand même.
Et Marino Marini. Ah oui, c'était un choc. C'était formidable. C'était extraordinaire. C'est une révolution. D'ailleurs, ça l'a été.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement. J'ai pensé à vous quand Jerry Lee Lewis, il vient de nous quitter. C'était le dernier grand du rock'n'roll américain encore vivant.
Fou,
vous aviez chanté le fils de Jerry Lee Lewis en 87. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'il était mort ?
Oh, ça m'a fait de la peine, mais enfin, on s'y attendait déjà depuis tellement longtemps.
C'était même dingue qu'il soit encore vivant.
Oui, qu'il soit encore en vie, parce qu'il a été opéré de 25 trucs, il y a eu des cancers, il a été opéré de la rate, enfin, etc. Mais ça ne l'empêchait pas de foutre la merde partout où il allait. Dans ses derniers moments de sa vie, il vivait carrément prostré parce qu'il était gardé par ses filles, par sa fille tout au moins, et il vivait avec des armes. Et dès qu'il sortait, il tirait sur n'importe quoi. Bon. Donc on essayait de le garder à la maison.
C'était le chanteur de Great Balls of Fire, énorme tube à l'époque. C'est fou quand même comme cette génération, à part les premiers qui sont morts tout de suite, Eddie Cochran, Buddy Holly, c'est fou comme ils ont vécu vieux, Chuck Berry, Little Richard.
Bon, pas si vieux que ça quand même.
C'est pas mal.
Oui,
quand même.
C'est pas mal.
Vu la vie qu'ils ont eue.
Non, c'est vrai, avec tout ce qui s'est mis dans le cornet, si on peut dire, c'est incroyable même qu'il soit arrivé à cet âge-là.
Est-ce que Johnny Hallyday vous manque aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, il me manque, mais il fait partie de ma vie, il fait partie de mes journées, il fait partie de ma vie. Oui.
C'est au golf de Roux, je crois que vous vous êtes rencontrés, vous passiez beaucoup de temps près.
Non, pas au golf de Roux, c'était... dans une surprise partie...
Ah oui, vous avez raconté souvent qu'il vous avait volé vos disques.
Mais c'est volé mes disques.
Il disait que c'était faux, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Menteur, celui-là.
Merci, Eddie Mitchell, d'être passé par le studio d'Europe 1. Des Lilas à Belleville, ça vient de paraître chez Dargo, avec des illustrations de Ralph Meyer.
Qui est formidable.
Oui, je suis d'accord. Et il vous fait très joli garçon, d'ailleurs. Hein. Mais déjà avec une banane à 14 ans, quand même.
Bah oui, c'était la mode.
Ah oui, déjà. Ah, avant même le rock'n'roll, en fait.
Ah bah bien sûr.
On s'y attend pas. Europe 1.